Bonjour et bienvenue à l'émission Le National, l'émission qui réunit toutes les nouvelles concernant les personnes handicapées sur l'ensemble du territoire canadien. Alors aujourd'hui, retour sur les sujets suivants. L'entrevue avec la ministre des Sports et des Personnes handicapées du Canada, Mme Carla Qualtro. Une rencontre de Marianne Paquette avec Martine Beaurivage, psychologue et coordonnatrice jeunesse, qui nous aide à mieux comprendre l'enfant autiste non-verbal. Un sujet douloureux pour bon nombre de personnes âgées. Mes enfants veulent que j'aille dans une résidence pour aînés. Que faire? Audrey-Anne Trudel, responsable de dossier pour la COFAN, la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, faisait partie d'une délégation représentant la société civile canadienne en visite à Genève. Le but de ce voyage était de rencontrer les membres du Comité des droits des personnes handicapées de l'Organisation des Nations Unies. Elle était au micro de l'émission Accès libre, animée par Benoît Racette. Cela se passait jeudi, dans le cadre de l'émission Les Paractualités que j'anime du lundi au jeudi. La ministre Clara Qualtro a gentiment accepté de répondre à mes questions sur les consultations publiques sur l'accessibilité et la loi qui doit en découler. On réécoute cet entretien. Sa nomination au titre de ministre a semé un vent d'optimisme dans la communauté des personnes en situation de handicap. Madame Carla Qualtro, ministre des Sports et des Personnes handicapées. Bonjour, madame la ministre.
Bonjour.
Bonjour. Nous sommes ravis que vous ayez accepté notre invitation aujourd'hui.
Merci.
Madame la ministre Carla Qualtro, en ce moment même, nous assistons et participons même à des consultations publiques d'Est en Ouest autour de la grande question qu'est l'accessibilité.
Oui.
Êtes-vous contente des premiers résultats? D'abord, qu'attendiez-vous de ces consultations et avez-vous l'impression que ça fonctionne?
Oui, bien, ça a été très bien reçu par la communauté des personnes handicapées et leurs activistes. Mm-hmm. On a jamais fait une telle consultation au Canada d'une côte à l'autre et c'était... il y a bien une attitude optimiste de ce qu'on peut faire avec la loi qui va être réalisée après les consultations. On n'a jamais eu une discussion au niveau fédéral des issues des personnes handicapées et c'est bien le temps au Canada pour l'avoir. Mmh. Et on veut le faire et on va le faire.
C'est même, madame, la raison pour laquelle j'ai bien dit qu'un vent d'optimisme avait soufflé sur la communauté, parce que je voudrais préciser, au cas où certaines personnes ne le sauraient pas, que vous êtes vous-même handicapée visuelle depuis la naissance.
Oui.
Et puis, vous avez été avocate, vous avez beaucoup travaillé sur des dossiers comme ça, publics. Et alors, vous étiez la personne, je pense, toute désignée.
J'étais avocate des droits de la personne.
C'est ça, exactement.
Ce qui était très frustrant, c'était qu'on doit attendre jusqu'à ce que les personnes soient discriminées avant de leur aider. Et maintenant, avec cette loi, on va avoir la capacité de prendre des décisions et avant que la discrimination se passe.
Mais alors, cette loi exactement, cette loi cadre qui va nous venir au niveau fédéral, à quoi va-t-elle servir précisément?
Au niveau fédéral, ça va servir à soit les emplois, les services publics, les programmes. Ça va nous aider à avoir des standards, je ne sais pas le mot en français, excuse-moi, pour que les employés sachent ce qu'on doit faire pour améliorer l'accessibilité.
Oui, et ça va se traduire concrètement pour les gens qui nous entendent en ce moment. Ça va se concrétiser comment tout ça?
On va dire au monde ce qu'on expecte, excuse-moi. En français.
Ce qu'on attend, exactement.
Ce qu'on attend, excuse mon français de Vancouver.
Oh, mais écoutez, si je pouvais avoir un anglais comme votre français, je serais bien contente.
Mais il y a des niveaux au niveau fédéral où, comme j'ai dit, il faut attendre pour aider les gens. Et ça va dire aux services, aux programmes, ce qu'on doit expecter avant que ça se passe.
Mais est-ce qu'il va y avoir des mesures contraignantes? Est-ce que, par exemple, ceux qui ne respectent pas cette loi-là vont se faire taper sur les doigts?
Oui, absolument. L'objectif, c'est de changer notre perception de l'accessibilité. Oui. Alors, nous devons montrer le minimum ce qu'on va faire, mais aussi avant changer les attitudes oui. sur l'accessibilité. C'est bon pour le travail, c'est bon pour le Canada, c'est bon pour l'économie. On sait ça. Il y a beaucoup de monde, il y a 3,5 millions de Canadiens qui ont un handicap, qui sont bien éduqués, qui sont des bons travailleurs, qui sont prêts à travailler. Ils ne reçoivent pas d'emploi. Alors, ça va aider beaucoup. La diversité, c'est bon pour le travail, c'est bon pour l'économie. Mm. Et les personnes qui ont un handicap sont très innovatives parce que nous habitons dans un monde qui n'a pas été battu pour nous. Et toute la vie, on fait des choses innovatrices. Je ne sais pas le mot, excuse-moi.
Non, c'est beau. On vous comprend très, très bien, madame.
Okay.
Oui, vraiment, vraiment.
Mais c'est que... Si on utilise cette innovation dans l'emploi ou dans les jobs ou dans l'économie, ça aide tout le Canada.
Mmh. Et vous savez, ce qui est surprenant dans vos propos, c'est qu'on entend rarement une personne aussi haut placée, une ministre, dire « nous ». Et je pense que c'est ça aussi qui fait non, mais c'est déjà important, je pense, pour la communauté.
Oui, je fais partie de cette communauté.
Voilà, c'est
tout
ça.
Tout le monde fait partie. C'est même pas seulement moi, mais tous les Canadiens, les Canadiens font partie. Tout le monde connaît quelqu'un qui a un handicap ou un enfant, ou un oncle, un travailleur, un ami. Ça touche nous tous. Et nous devons parler comme ça pour réussir ce qu'on va réussir.
Madame la ministre Carla Quattro, est-ce que dans d'autres pays, il existe des lois comme celles que vous voulez mener à bien?
Oui. Aux États-Unis, ils ont une loi qui fait à peu près ce qu'on veut faire. Mais cette loi-là touche aussi les droits de la personne et évidemment, nous ne devons pas le faire ici au Canada. Mais ça fait 25 ans et nous pouvons faire mieux que cette loi. Et il y en a aussi à Ontario depuis 10 ans. Et ça, c'est au niveau provincial. Alors, pour nous, ça va être au niveau fédéral. Mais pour moi, c'est aussi le leadership du gouvernement. Ça, non seulement par la loi qui va être réussie à propos de ces consultations, mais on dit directement aux Canadiens que c'est un issue très important pour notre gouvernement et que c'est une priorité, c'est la number one priorité pour moi dans mon lettre de mandat. Alors, je dois le réussir, mais aussi on doit avoir ces conversations et c'est difficile. C'est pas facile ce qu'on veut faire. Alors, ça va prendre toute l'énergie de tout le monde. Tout le monde qui veut en faire partie peut en faire partie.
Et puis, dites-moi, vous êtes maintenant donc ministre des personnes handicapées, mais aussi du sport.
Oui.
Et là, vous avez réussi à marier les deux. Vous arrivez de Rio.
Oui, vous devez dire merci au premier ministre pour cette, pour cette mariage-là. C'est les deux passions dans ma vie et il m'en a donné responsabilité les deux. Moi aussi, j'étais athlète paralympique. Alors,
oui.
J'ai nagé aux Jeux paralympiques. Et puis, je viens hier de retourner des Jeux paralympiques à Rio. Et notre équipe fait excellent. Je suis très fière
Écoutez, oui, vous savez que nous avons d'excellents chiffres ici. Je ne sais pas si vous le savez, mais par exemple, hier, jour 7, ça a été la meilleure journée au Canada. Six médailles.
Oui, et puis des médailles d'or et d'argent. Alors, c'est des excellents résultats. Moi, j'ai eu l'occasion de donner la médaille d'or à Aurélie Rivard.
Oui!
La première médaille. Et pour moi, ça fait 28 ans que j'étais sur le podium. Et puis, je suis revenue et j'ai donné à un héros canadien sa première médaille. Alors, il y avait beaucoup de...
D'émotion.
D'émotion, absolument. Avec
oui, des deux côtés, j'imagine.
Oui,
des deux côtés.
Elle est merveilleuse, elle est fantastique. Nous sommes très chanceuses d'avoir Aurélie, c'est notre équipe, et puis vous avez Benoît, et puis Chantal Petitclerc comme la chef de mission.
Oui.
J'espère que ça continue.
Mais oui, c'est ça. Et puis nous avons ceux qui ont peut-être moins réussi, mais on pense à eux beaucoup. On pense à M. Mm-hmm. Mainville, par exemple.
Oui.
Hein, Pierre, vous savez qu'il a déjà été chroniqueur ici à notre émission.
Ah oui, OK.
Oui, ça, absolument.
Non, mais il y a des histoires. Ça, c'est le sport.
Ça, c'est ça.
D'un jour à l'autre, on ne sait pas ce qui va se passer. Et on travaille fort, on fait nos mieux, on ne laisse rien sur le terrain. Et puis, on voit les résultats. C'est le seul qu'on peut faire.
Madame la ministre, est-ce que vous allez venir à Montréal et à Québec en novembre à l'occasion de la tournée Canada Accessible?
Bien, nous n'avons pas encore finalisé mon horaire, mais j'espère que oui.
Parce qu'écoutez, si vous venez à Montréal, il faut nous faire une promesse. Vous savez que nous sommes la radio numéro 1 à Montréal et je pense d'ailleurs partout au Canada, qui travaillons au service de la communauté des personnes qui vivent un handicap. Et je pense que c'est ce que vous faites aussi. Alors, tout nous relie.
Ça va être un honneur pour moi.
Alors, écoutez, on vous attend peut-être à Montréal. Oui. Et sinon, j'espère avoir le plaisir de vous reparler sur les ondes.
Absolument.
Et je vous remercie infiniment d'avoir accepté notre invitation. Je m'entretenais avec Mme Carla Quattro, ministre des Sports et des Personnes handicapées. Au revoir, madame, et bonne journée.
Au revoir, toi aussi.
L'entrevue que vous venez d'entendre était extraite des Paractualités, présentée tous les jours du lundi au jeudi de 11h30 à midi. Les Paractualités, ce sont des nouvelles, des entrevues et des développements d'enjeux importants pour la communauté de personnes vivant en situation de handicap.
Pareil. Les plus simples sont les plus jolies. Un traîneau, un soir de veille, un fado comme joue la pluie. Y a pas de chanson pareille. Les plus belles sont les moins connues. On les joue quand elles sont vieilles, comme un beau malentendu. À partir d'Amsterdam jusqu'au pont d'Avignon, il y a au moins 2 millions de chansons. Engagée, tourmentée, profonde ou défendue, y a quelqu'un qui les chante. Y a pas de chansons pareilles. Les plus belles sont les moins connues. Dos à dos, bouche à oreille, comme un beau malentendu. âgée, tourmentée, profonde ou défendue, y a quelqu'un de sous-entendu. Une histoire de papier, un souvenir ému, et quelqu'un qui le chante. Y a pas de chanson pareille, les plus simples sont les plus jolies. Un traîneau, un soir de veille, un fado comme joue la pluie. Y'a pas de chanson pareille, les plus belles sont les moins connues. On les joue quand elles sont vieilles, comme un beau malentendu. Y'a pas de chansons pareilles, les plus belles sont les moins connues. Dodo, bouche à oreille, comme
comme pour les chansons, il n'y a pas deux familles pareilles. Mais celles dont il est question dans l'émission Portrait de famille ont tout en commun d'abriter un ou plusieurs membres du groupe vivant avec une limitation fonctionnelle. Des parents témoignent et des spécialistes nous éclairent. Cette semaine, autour du sujet de l'autisme non-verbal, Marie-Anne Paquette nous présentait Martine Beaurivage, psychologue.
Martine Beaurivage, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes psychologue, coordonnatrice jeunesse 0-25 ans, première et deuxième ligne, je vais le dire au complet, direction DITSA-DP du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de l'Ouest de l'île de Montréal, fameux CIUS. Et en fait, vous êtes au Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal. C'est une installation de ce CIUS-là, Martine. On l'a dit au complet, on le redira peut-être pas au complet. Merci d'être avec nous, Martine Beaurivage. Vous êtes ici pour tenter de démystifier ce qu'est un enfant autiste non-verbal. On le sait, ou du moins on en entend de plus en plus parler, les personnes autistes ont une façon différente peut-être de communiquer que les personnes neurotypiques. Peut-être juste pour mettre la table au départ, qu'est-ce qui, les grandes lignes, qu'est-ce qui distingue leur façon de communiquer que les neurotypiques?
C'est certain que, déjà, on peut le voir à la base, probablement que Mme Leduc l'a vu à la base aussi. C'est toute cette notion-là, quand ils sont bébés, même avec le langage préverbal, cette notion-là de réciprocité, de contact visuel, de vouloir pointer quelque chose. Souvent, un enfant même qui est non-verbal va voir un oiseau dans le ciel, va pointer. Tout ce qui s'appelle l'attention conjointe. C'est souvent un des premiers signes que les parents ne voient pas nécessairement. Et ils vont justement se poser des questions à savoir qu'est-ce qui se passe avec mon enfant, mais va être plus centré sur ce qui est verbal. OK?
Ouais.
Donc, à partir de ce moment-là, c'est souvent, ben là, mon enfant parle pas, alors que probablement qu'il avait présenté ces signes-là avant. Donc, au niveau de la communication, c'est très différent. Justement, ce qui fait en sorte pourquoi avoir un diagnostic d'autisme, c'est vraiment au niveau des interactions sociales et de la communication sociale. Mm-hmm. OK? Donc, souvent, c'est qu'il n'y a pas d'intérêt à parler parce que le langage, pour eux, c'est un code. C'est très abstrait, le langage. Donc, c'est très, très difficile.
C'est très abstrait pour eux, donc, ce code-là.
Oui. Donc, ne connaissent pas nécessairement le code. C'est sûr, quand on parle d'autisme non-verbal, il n'y a pas de définition claire du qu'est-ce que c'est l'autisme non-verbal.
Oui, voilà.
Et c'est ce qui est dommage. Ce qu'on dit dans la littérature, c'est qu'ils vont le considérer en général entre quelqu'un qui est capable de produire entre 5 et 30 mots, mais c'est pas consistant dans la littérature. Donc, ils peuvent pas savoir, ils peuvent pas faire de recherche, savoir c'est quoi les meilleurs traitements parce qu'ils peuvent pas comparer les bonnes choses en même temps.
Mm-hmm.
Donc, comme Mme Leduc aussi, c'est qu'il y a tellement dans le spectre de l'autisme, c'est tellement large que c'est difficile à voir qu'est-ce qui va fonctionner pour un, qu'est-ce qui fonctionnera pas pour l'autre. Donc, de plus en plus, on parle de, au lieu de se concentrer sur la production du langage, comment se centrer sur la motivation à parler, à communiquer. Mm-hmm. OK? Et pas parce qu'un autiste ne parle pas qu'il ne communique pas non plus. On parle de communication verbale, mais il y a d'autres moyens de communication.
Avec toutes les avancées scientifiques des dernières années sur l'autisme, sur le trouble du spectre de l'autisme, est-ce qu'on pourrait tendre éventuellement à clarifier plus précisément ce qu'est un enfant autiste non verbal? Est-ce que vous pensez qu'un jour, il y aura ces grandes lignes directrices pour le nommer?
De plus en plus, oui, parce que dans la dernière littérature, ce qu'on voit aussi, ce qui est intéressant, c'est que dernièrement, avant la décennie, avant l'avènement des nouvelles thérapies et de l'information qu'il y a sur Internet, on parlait de 50 % des enfants avec un diagnostic d'autisme étaient considérés comme non-verbaux, maintenant que c'est 25 %. Donc, on voit qu'il y a des avancées au niveau de la thérapie. On voit qu'il y a des... Il y a beaucoup de recherches qui se fait à ce niveau-là, puis comme je disais plus tôt, c'est se centrer moins sur la production du langage, mais vraiment sur la motivation à parler. Comme on parlait de établir des opportunités dans on va au parc, par exemple. Donc, comment on peut faire pour que l'enfant spontanément arrive à parler et à demander quelque chose. Donc, comment on peut développer sa motivation à vouloir communiquer? C'est plutôt ça. Et c'est pas facile parce qu'il faut saisir les opportunités. Donc, l'enfant va être renforcé s'il dit un mot et on lui donne. Donc, il va être porté à reproduire ce comportement-là, ce mot-là, parce qu'il a été renforcé en disant le mot, là.
Un enfant qui émet des sons, je pense que le terme, c'est écholalie. C'est le cas de Simon, d'ailleurs, qui fait quelques sons.
Pardon. En fait, Simon ne fait pas du tout d'écholalie. Simon est un non-verbal non-verbal.
Un vrai de vrai.
En fait, il va faire des sons. On sait qu'il est capable d'émettre des sons parce que je pense que ce serait intéressant de parler à des psychiatres là-dessus. Je crois que l'être humain est fait pour faire des sons aussi, à moins d'être muet, évidemment. Mais le mien a comme besoin de continuellement faire des poui-poui, puis c'est, on l'appelle poui-poui maintenant, d'ailleurs, parce qu'il fait des sons beaucoup, beaucoup. On dirait que c'est un besoin là, de faire de sons. C'est des sons qui peut-être veulent dire des choses pour lui.
Ouais.
Et de temps en temps, on se dit « Oh, 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 il vient-tu de dire « za » pour « pizza » ?» Parce qu'il va faire dire « Ah, patate », tu sais, il va faire des sons, mais whoop, là, il accroche des fois des fins de mots. Les premières fois, il y a à peu près 3-4 ans, on n'y croyait pas, on ne pensait pas que c'était une fin de mot ciblée. On pensait que c'était que de l'écholalie, puis il répétait sans nécessairement avoir une fonction. Maintenant qu'on sait qu'il comprend très bien notre langage, le langage réceptif chez eux est très, très développé, ce qui fait qu'on est rendu qu'on parle de façon courante. Il est dans sa chambre, pardon, puis il va descendre. Si on a dit voiture, on s'en va en voiture, il va descendre, il a compris, c'est quand même particulier.
Donc, l'écholalie fait partie du développement du langage? Comment on peut déterminer ça dans le développement du langage de l'enfant?
C'est certain pour au niveau du développement du langage portophoniste, par contre, là, mais au niveau du langage des enfants neurotypiques, l'écholalie habituellement est beaucoup plus tôt, alors que chez les enfants autistes, c'est beaucoup plus tard, mm-hmm. vers 7-8 ans. C'est certain que l'écholalie, la définition de l'écholalie comme telle, c'est de répéter des phrases, mais qui ne veulent, dans un contexte qui est différent ou qui n'ont pas nécessairement de sens pour l'enfant. Comme par exemple, souvent, quand on va travailler en thérapie comportementale, on va lui demander « Quel est ton nom? » Il va répondre « Quel est ton nom? » OK?
Ah oui,
ou il va arriver, okay. Il va dire « Dis salut à Martine. » « Dis salut à Martine ». Tu sais, donc, il va répéter, il est capable de produire le son, mais pour lui, la phrase aussi, ça ne fait pas de sens et c'est pas adapté au contexte.
OK, c'est du point de vue de la compréhension à ce mm-hmm. moment-là.
Moi, dans le cas de Rémi, mon plus jeune, a fait beaucoup d'écholalie, mais lui, contrairement à ceci, c'est que lui, il va l'utiliser. Comme son langage, c'était difficile d'accès pour lui. Quand il arrivait une question, une phrase, c'était une phrase qu'il avait entendue dans un film qu'il pouvait aller rechercher pour répondre. Elle était bien placée, mais c'est pas des phrases construites par mon fils. Et encore aujourd'hui, il est meilleur dans la construction de phrases en anglais mm-hmm. qu'en français. Mm-hmm. Donc, si on lui disait « Veux-tu de la pizza? », il disait « Pizza, les gars, comme dans Toy Story. »
Ah oui!
T'sais, il répétait
mm-hmm. la référence
oui,
était là pour lui.
C'est ça. Mais pour lui, c'était très utile, sans quoi il aurait été sans mots. Donc, oui. C'est mm-hmm. quand même important, l'écholalie, et c'est précurseur du langage.
Oui. Le temps file à vive allure. J'ai envie de vous demander, Martine, parce que cette émission, elle est en place pour ça, aider les parents, tenter de leur donner des ressources, de les faire réfléchir, des amener ailleurs. pour ces parents qui soit découvrent que leur enfant autiste vit des difficultés de communication ou encore, un petit peu comme Joanne, on est confronté à un enfant non-verbal, on aura envie d'avoir des pistes vers quoi on peut se tourner.
Mais c'est certain, typiquement, c'est comme on dit, c'est dans la vie quotidienne, dans la vie de tous les jours, c'est essayer de trouver des motivateurs ou des occasions qui vont faire en sorte que l'enfant va pouvoir donner un sens au langage. C'est saisir les opportunités comme le bain, aller au parc. Donc, de vraiment favoriser que l'enfant soit capable d'utiliser une communication spontanée et que pour qui le langage va donner un sens et pour qui le fait de parler va être renforcé. Parce que c'est souvent un langage social, donc c'est un acte social, le langage. Donc, il faut que l'enfant commence à demander des choses, nommer ses besoins. Souvent, ce qu'on a vu avec mon expérience au niveau de la thérapie comportementale intensive, je me souviens, c'est que l'enfant pouvait nommer ses couleurs, pouvait nommer des objets, pouvait nommer, mais il ne parlait pas de façon spontanée. C'est qu'à un moment donné, j'avais intégré un enfant à la maternelle. Le professeur m'avait dit, bien, cet enfant-là, il ne parle pas. Je dis, oui, mais il fait des phrases complètes, mais il était pas renforcé, OK? Donc, il n'avait pas... Il n'y avait pas besoin d'utiliser le langage. Donc, s'il n'y en a pas besoin, souvent, il ne va pas l'utiliser, on ne va pas le renforcer. Et il y a quand même de plus en plus dans les recherches aussi des éléments neurologiques qui vont faire en sorte qu'avec l'âge, ils peuvent perdre aussi certains acquis du langage. Ouais. Donc, il y a des applications pour les parents aussi. Il y a le site sur la Fédération québécoise de l'autisme où il y a des applications pour favoriser justement la communication. Les iPads, c'est très, très renforceur comme aussi moyen de motivation. Donc, il y a plein de ressources qui peuvent faciliter l'apparition du langage ou au moins une façon de communiquer. Là.
Je pense qu'on aurait eu besoin de 2 heures pour en parler. L'émission étant faite, non pas de cette façon, on doit vous laisser partir, Martine Beaurivage, mais ça a donné quand même, je pense, on a pu installer quand même quelques enjeux, du moins installer cette discussion-là. Et je pense qu'on aura du temps pour y revenir un autre moment donné parce que c'est essentiel, évidemment. Martine Beaurivage, vous êtes psychologue, coordonnatrice jeunesse du côté du Centre de réadaptation de l'Ouest de Montréal. C'est une installation du CIUS de l'Ouest de l'île de Montréal. Merci beaucoup.
Ça me fait plaisir.
Merci.
Martine Beaurivage répondait aux questions de Marianne Paquette dans le cadre de l'émission Portrait de famille, présentée sur Canal M le lundi à midi et en reprise à 17h. Mes enfants veulent que j'aille dans une résidence pour aînés. Que faire? Dans le cadre de l'émission « C'est bon pour la santé », Marianne Paquette pose la question à France Cardinal Remette, auteure et infirmière.
France Cardinal Remette, bonjour.
Bonjour.
Un plaisir de vous retrouver. Parce que c'est pas la première fois que l'on se parle, nous deux. Vous étiez venus il y a quelques semaines, mois de ça, pour nous parler de votre livre « Quand la vie se fragilise », un guide pour vous et vos proches aidants. C'est publié chez Multimonde. Et ben, on a eu envie de réitérer l'expérience. Mm-hmm. Et vous êtes là maintenant à titre de chroniqueuse dans le cadre de « C'est bon pour la santé ». Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui, je le disais tout à l'heure, peut être assez confrontant pour les familles, parfois inévitable. Et ça va toucher beaucoup, beaucoup de personnes, notamment dans une société vieillissante comme le Québec, à savoir est-ce que notre parent, notre mère, notre père doit aller dans une résidence pour personnes aînées. Qu'est-ce qui motive ce choix-là? Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, des enfants se disent « je pense qu'on est rendu là ».
Je pense que c'est la détérioration et la fragilité de la santé de la personne. Il y a des changements qui surviennent. On a même vu des situations où les enfants ne demeurent pas à proximité de leurs parents et les visitent pour les vacances et tout à coup se rendent compte qu'il y a eu une dégradation. Par contre, du côté du parent aîné, ça peut être un choc d'être questionné par ses enfants et de se faire dire « je pense que ce serait le temps de penser à aller en résidence ». Alors, je pense qu'il faut prendre ça avec un bémol parce que ça nécessite une grande réflexion, puis on n'a pas à réagir là, instantanément. Je pense qu'il faut réfléchir comme il faut. C'est une délicate question et délicate en ce sens qu'on envisage alors une perspective de changement de milieu de vie.
Oui.
Et ça fait peur.
Et de routine également, oui. Et d'environnement.
Tout à fait. Alors, l'inconnu fait peur à l'être humain et c'est normal. Alors, est-ce qu'il est possible de faire face à cette nouvelle réalité-là pour la transformer en une expérience plus positive? Bien, certainement. Et comment? Bien, en se préparant, premièrement, en la percevant ou en la visualisant plus comme une occasion d'échange avec ses enfants, la part de l'aîné, plutôt qu'une menace qu'il faut à tout prix éviter.
Ouais.
Alors ça, c'est important. Puis même, je vais en parler peut-être plus en détail un peu plus tard, mais il faut se préparer même avant de perdre ses facultés à cette éventualité-là et exprimer à ses proches ses souhaits, hein, comment on envisage ça pour le futur. Alors, j'avais préparé un petit exercice, Marianne, de petites questions qu'une personne aînée peut se poser pour mieux saisir pourquoi les enfants abordent cette question-là. Alors, elle pourrait se demander, mais pourquoi cette question-là survient maintenant? Alors, moi, comment je me sens par rapport à ça? Est-ce que je suis ouvert ou je suis plutôt paniquée? Puis pourquoi? Aussi se questionner sur sa santé elle-même. Comment ma santé évolue-t-elle là, dans le moment? Est-ce que j'ai des signes de fragilité? Par exemple, est-ce que j'ai fait plusieurs chutes dernièrement? Est-ce que ma sécurité est menacée? Est-ce que ma mobilité n'est plus la même? Est-ce que j'ai de la difficulté à préparer mes repas, à me laver moi-même, à me mobiliser dans mon appartement?
La confusion aussi. Est-ce que je suis confus? Je me sens perdue?
Oui. Tout à fait. Problèmes de mémoire qui peuvent survenir. Maintenant, les capacités sensorielles, on n'en parle pas si souvent que ça, mais elles sont présentes chez les aînés. Des difficultés à entendre, des difficultés à voir, hein, la baisse visuelle, tout ça qui peut survenir, on le sait. Alors, il y a aussi tout l'aspect du réseau social. Il y a des gens qui sont très, très isolés dans leur domicile. Ils vont faire aussi des oublis. Moi, je l'ai vécu avec ma mère, où un matin, elle m'a dit, écoute, je me suis réveillée, puis j'avais oublié de verrouiller ma porte pendant la nuit. Alors ça, c'est inquiétant.
Il y a l'inquiétude de l'entourage. Ça aussi, souvent, c'est un moteur. Je m'inquiète pour toi, papa, maman, je pense que tu serais mieux encadré. Le cheminement serait préférable dans une résidence plus surveillée. Mais il y a différents types aussi de résidences, je pense, France.
Oui.
Et ça, il faut quand même s'y attarder. C'est un questionnement à se poser aussi.
Oui, parce que est-ce que c'est la solution ou l'option la plus appropriée pour la personne? Peut-être, puis peut-être pas. Hein, ça dépend. Parce que si on s'adresse aux résidences privées, bien, les résidences, évidemment, offrent une panoplie de services, d'activités de toutes sortes. Elles s'adressent en général aux aînés autonomes, semi-autonomes, mais ils peuvent aussi offrir des services, des soins à la carte pour des gens qui commencent à avoir certaines pertes. Il y a aussi des résidences qui proposent des unités vraiment là, qui offrent des soins plus spécialisés, entre autres pour les problèmes cognitifs ou pour des problèmes de santé multiples complexes. Alors, il y a des unités, il y a des soins plus intensifs qui sont offerts. Mais il faut compter en moyenne, là, j'ai été voir les chiffres, là, pour des gens qui sont autonomes, semi-autonomes, en moyenne 2 200 par mois comme coût. Et pour des gens qui nécessitent des soins plus intensifs, on parle de 3 500 par mois en moyenne, mais ça peut aller plus haut que ça.
Il faut avoir le budget aussi.
Oui, oui. C'est un autre élément à considérer, effectivement.
Donc, lorsque vous parliez, France, et ça, c'était assez judicieux de dire, il faut s'y préparer, peut-être même y réfléchir avant d'avoir perdu certaines facultés. Il faut aussi, du point de vue financier, y penser avant et prévoir ce passage-là.
Moi, ce que je crois que l'idéal aussi, c'est de se familiariser avec les ressources qui existent. Alors, on sait qu'il y a les CLSC dans chacun des quartiers. Alors, il y a des organismes communautaires. Il y a aussi des services privés à la carte qui peuvent être achetés, qui sont peut-être moins coûteux que d'aller en résidence. Alors, c'est l'ensemble. C'est quand on rassemble tous ces services-là ensemble qu'on peut maintenir la personne. Hein. On dit toujours le domicile, le premier choix. N'empêche que ça, quand on va en résidence, le CLSC peut s'y présenter aussi. Hein? Quand c'est une résidence privée, on peut avoir les services du CLSC également. Il ne faut pas penser que c'est impossible.
Oui.
Alors, voilà pour ça. Puis, il y a la question, les gens vont dire, il y a quelque temps, on dit, ma fille veut me placer dans un centre d'hébergement. Oui, oui, on entendait ça. Mais les centres d'hébergement de longue durée, maintenant, s'adressent vraiment uniquement aux problèmes de santé très complexes. Puis on n'entre pas dans un CHSLD ou centre d'hébergement de longue durée comme ça. Hein. Ça prend vraiment une évaluation médicale, évaluation d'une équipe du CLSC très souvent ou d'un centre hospitalier où vraiment la personne est en complète perte d'autonomie, a besoin d'une intensité de soins importante à tous les jours. À ce moment-là, ce sera admissible à un CHSLD. Mais autrement, il existe d'autres sources intermédiaires, alternatives aussi, entre la résidence privée et le CHSLD qui sont disponibles. Et ce sont les intervenants des CLSC, entre autres, et des centres de santé qui pourront guider la personne.
France, à qui revient le choix lorsque la personne aînée a perdu beaucoup de facultés ou est très malade?
Le choix lui revient. Maintenant, il y a toujours la notion d'aptitude et d'inaptitude. Alors, quand la personne est apte à prendre ses décisions, c'est-à-dire qu'elle elle n'a pas d'incapacité à prendre soin d'elle-même et de gérer ses biens, ses affaires, à ce moment-là, c'est à elle que revient la décision. Tant qu'il n'y a pas un programme de protection d'ouvert, c'est à l'adulte, quel que soit son âge, à prendre ses décisions, malgré tout.
Okay.
Maintenant, j'aimerais aborder la notion un peu d'inaptitude. Qu'est-ce que ça signifie? C'est souvent confus pour les gens. Alors, l'inaptitude, je le répète, se définit par l'incapacité, dans le fond, de prendre soin de soi et d'administrer ses biens, mais elle peut être partielle ou totale, temporaire ou permanente.
Ah oui.
Et peut-être le résultat d'un grave accident, d'une maladie dégénérative, d'une maladie mentale, ou problème de santé mentale, devrais-je dire, d'un accident vasculaire cérébral, entre autres. Alors, ça peut être des problèmes d'Alzheimer, il y a différents problèmes là, qui peuvent survenir. Alors, c'est pourquoi on dit que les gens devraient se préparer à l'avance et rédiger leur mandat de protection, mieux connu sous le nom de mandat en cas d'inaptitude. Alors, mais présentement, on l'appelle mandat de protection, c'est le vrai terme. Alors, qui peut rédiger son mandat? Bien, la personne elle-même, à l'aide d'un formulaire, là, peut le rédiger, mais il doit être signé par deux témoins qui ne sont pas visés par le mandat lui-même.
Okay.
Alors, des gens extérieurs. Ça peut être un voisin, un ami, bon. Et il y a l'autre façon qui est plus formelle, c'est d'aller voir un notaire. Il y a des avocats aussi qui peuvent le faire, mais le plus souvent, c'est le notaire, là. Qui est en mesure aussi de le conseiller, la personne, oui. De l'aider à formuler clairement ses volontés. Alors, lui conserve l'original et remet une copie à la personne et il va, tout comme l'avocat, inscrire le document dans un registre officiel prévu à cet effet.
Oui, et ça peut être assez utile lorsqu'il est temps d'aborder ces questions un petit peu plus délicates. D'ailleurs, on remercie votre fils, France Cardinal Rémette, qui est notaire,
oui,
hein, je
François,
pense.
François Rémette, oui.
Et qui vous a donné un petit coup de main. En terminant, il nous reste à peine une minute, France. Quand cette décision-là rend le climat familial un petit peu tendu, plus confus, est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent servir de médiateurs à qui on peut se référer pour nous aider à réfléchir, orienter les discussions? Vous parliez tantôt du médecin. Le médecin de famille peut servir à ça. Il y a peut-être un notaire, le notaire de la famille.
Tout à fait.
Est-ce que on peut se référer à d'autres personnes?
Mon expérience, moi, j'étais directrice des services à domicile dans un CLSC dans l'ouest de l'île. Et le plus souvent, c'était le travailleur social là, okay. qu'on affectait à ce genre de problématiques-là. Et c'était toujours un succès. Les travailleurs sociaux étaient tellement près de leurs patients, puis prenaient le temps de discuter avec la famille, puis finissaient par trouver une solution ensemble.
Donc, oui. On se réfère à notre CLSC dans notre région, dans notre quartier.
C'est ce que je suggère le plus possible.
France Cardinal Rémette, je le disais tout à l'heure, vous êtes auteur de ce livre-là qui peut être extrêmement outillant quand la vie se fragilise chez Multimonde. Mais ce que j'ai omis de dire tout à l'heure, c'est que vous êtes également infirmière de formation. En ce moment, vous êtes chargée de cours à l'UDM auprès de futures infirmières. Donc, vous êtes vraiment dans ce bain-là pour continuer à nous outiller en matière de santé. Merci beaucoup pour cette première chronique. Ça a été très, très informatif.
Merci.
L'émission « C'est bon pour la santé » vous est présentée en format d'une heure chaque semaine, le mercredi à midi et en reprise à 17h. Animation, Marianne Paquette.
Étoile, étoile, sur nos têtes toutes pâles, quand s'éteint le jour,
dors bien mon amour. Étoile, étoile, le beau soir qui tend ses voiles. Vienne le sommeil, ne crains rien, je veille. J'entends gémir les arbres étourdis par le vent. Et j'entends ta beauté qui respire. Quand l'étoile frissonne, quand vogue le navire. Nous voici tous les deux dans l'espace vivant. Étoile, étoile, sur nos têtes toutes pâles. Quand s'éteint le jour, dors bien. Voici venir les anges en léger bataillon. Ils te protégeront, toi qui es sans défense. Moi j'inventerai pour toi d'autres constellations. La chaise, le couteau, le condor, l'espérance.
Une délégation représentant la société civile canadienne était à Genève la semaine dernière pour rencontrer les membres du Comité des droits des personnes handicapées des Nations unies. Au sein de cette délégation, il y avait Audrey-Anne Trudel, responsable de dossier pour la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, autrement dit la COFAN. Elle avait beaucoup de choses à raconter au micro de Benoît Racette dans le cadre de l'émission « Accès libre ».
On a avec nous au téléphone Audrey-Anne Trudel, responsable de dossier pour la Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec, la COFAN. Bonjour Audrey-Anne.
Bonjour.
Bonjour, merci d'être avec nous. En fait, il y avait une délégation qui représentait la société civile canadienne à Genève la semaine dernière dans le but de rencontrer les membres du Comité des droits des personnes handicapées de l'ONU. Vous en étiez, Audrey-Anne Trudel. On rappelle que le Canada avait, Swarper, avait signé cette convention relative aux droits des personnes handicapées et c'est en vertu de ça qu'on dépose un rapport. Donc, vitement, comment vous avez trouvé ça à Genève la semaine dernière?
Bien, j'ai trouvé ça fort intéressant. En fait, je peux dire la plus grande distinction entre le travail qu'on fait ici et le travail que j'ai fait là-bas, c'est que là-bas, on est beaucoup intervenu auprès des membres du comité sur les droits des personnes handicapées, mm-hmm. qui sont en fait des gens qui veulent que la convention soit appliquée et qui veulent nous aider. Donc, ils étaient très ouverts à nos commentaires, très réceptifs. Ils nous demandaient de l'information. Donc, c'est un peu différent de ce qu'on fait ici, plus auprès de nos gouvernements.
Est-ce que vous voulez dire que les gens étaient particulièrement réceptifs?
Oui, oui, tout à fait, parce qu'en fait, eux, ils travaillent dans le même but que nous. La plupart ouais. des gens qui sont membres du comité, en fait, c'est des gens qui, avant d'être nommés sur ce comité-là, faisaient le même travail que nous dans leur pays.
OK. Donc, c'était surtout des gens de la société civile, mais il y avait aussi des gens de l'organisation en tant que telle, du Haut Commissariat?
Ben oui, on a rencontré des gens du Haut Commissariat, mais c'était plus... dans le cadre de notre visite, là, tant qu'à être sur place, on a établi des contacts avec ces gens-là. Mm-hmm. Mais on était vraiment là, nous, pour rencontrer les gens du comité sur les droits des personnes handicapées dans le cadre de l'évaluation du Canada par rapport à son application de la Convention.
Et pendant qu'on en parle, j'aimerais ça que vous nous rappeliez qu'est-ce que garantit en principe, ou en gros, la Convention relative aux droits des personnes handicapées de l'ONU?
Bien, en fait, c'est un document qui est assez complet, là, qui garantit, dans le fond, tous les droits fondamentaux qui sont reconnus à chacun et chacune, mais qui les reconnaît plus spécifiquement là, aux personnes en situation de handicap, compte tenu des adaptations nécessaires, donc le droit à l'éducation, le droit à la santé, le droit à un revenu décent. C'est une convention qui favorise aussi l'aménagement de bâtiments accessibles. C'est très complet, là, je dirais.
Donc, ça fait le tour de la vie d'une personne, en effet, je
ça
peux imaginer.
Ça protège contre la discrimination, en fait, c'est ça.
OK. Donc, principalement, le premier socle, c'est celui de ne pas discriminer parce qu'on est censé être tous égaux en droit.
Exactement. Puis il y a aussi un autre volet sur la consultation des personnes handicapées et des organismes qui les représentent dans la okay. mise en œuvre de toutes ces mesures-là pour atteindre l'égalité de droit.
Donc, dans le fond, ce que fait le Canada en ce moment en consultant avant une loi canadienne pour les personnes handicapées ou l'accessibilité, c'est dans l'esprit de la Convention qui a été signée.
Tout à fait, tout à fait. Après ça, il faudra voir ce que ça donne, mais oui, tout à fait.
OK. Est-ce que le Canada performe bien par rapport à la Convention, par rapport à ses engagements?
Sur certains aspects, oui. Sur certains aspects, moins. C'est okay. sûr que c'est notre principale difficulté, puis c'est un des points qu'on a soulevé devant le comité, c'est qu'on a très peu de données. Hein. Vous savez, c'est sous Harper que la convention a été signée, mais c'est aussi sous Harper qu'on a eu de moins en moins de données, de statistiques et tout. Donc, le Canada, dans son rapport, fait état de certaines statistiques qui sont pas très récentes, donc surtout des données qui datent entre 2006 et 2011, dépendamment des sujets. Mm-hmm. Un rapport qui a été publié en 2014, donc il y en a des statistiques qui dataient un peu.
Ouais.
Donc c'est difficile de documenter après ça, est-ce que ça se fait bien, est-ce qu'il est performant, parce qu'il n'y a pas de preuve à l'appui, donc il peut bien dire ce qu'il veut. Après ça, nous, si sur le terrain, on observe des choses différentes, ben c'est ce qu'on va dire au comité, mais c'est difficile pour nous aussi d'appuyer. Et d'ailleurs, la convention spécifie là, le fait que l'État doit fournir des données, collecter des données qui permettent de suivre la mise en œuvre, l'application de la convention.
Donc, c'est vraiment une obligation que les gouvernements ont. Donc, est-ce que, je dis ça là, parce que c'est pas fini le traitement des données encore, est-ce que le dernier recensement qui a eu lieu va nous donner des bonnes statistiques finalement sur la situation des personnes handicapées ici au Canada?
Bien, je pourrais pas dire. Ça va dépendre aussi de l'analyse qui en est faite, de qu'est-ce qu'ils vont, tu sais, de qu'est-ce qu'ils vont croiser, ressortir de tout ça. C'est sûr que c'est une bonne nouvelle d'avoir des données, déjà d'en avoir.
Il était temps.
Oui, il était temps. Donc, c'est sûr que ça va nous donner une idée. Là. On va s'en servir, ça, c'est sûr.
Et je veux juste redire aux gens, là, pour qu'ils comprennent bien, il y a évidemment une convention qui est signée par beaucoup de pays à travers le monde. Le Canada l'a ratifié, cette convention-là. Mais il y a eu deux rapports qui ont été soumis, que vous avez lus, en fait, consultés. Il y en a un qui est fourni par le Canada, puis d'autres, un autre par la société civile, donc les groupes comme la COFAN.
Oui.
Y a-t-il une grosse différence entre les deux?
Oui, bien en fait, le Canada a déposé son rapport en 2014 et ensuite la société civile canadienne a remis là, cet été son rapport alternatif auquel la COFAN a largement contribué.
Mm-hmm.
Oui, c'est différent. Nous, ce qu'on aborde, c'est les choses qui n'ont pas été abordées par le gouvernement du Canada et aussi
comme quoi,
les choses avec lesquelles on n'était pas d'accord.
Comme quoi, par exemple?
Ben moi, c'est sûr que nous, à la COFAN, on a beaucoup insisté sur l'aspect provincial, parce que le Canada, il parle beaucoup de ce qui se passe au fédéral. Après ça, il utilise un peu l'excuse du fait qu'il y a différents niveaux de gouvernement et qu'il peut
c'est
pas...
C'est ça, c'est pas ses compétences, pas la s'engager. Santé, oui. La santé, par exemple.
Mais sauf qu'il a quand même signé la convention. Il a émis une réserve au fait que lui, il fait ce qu'il peut dans la mesure de sa constitution. Là.
Okay.
Mais je pense qu'il pourrait quand même faire plus, le fédéral, au niveau de comment il encadre les provinces ou comment il les encourage. Ça peut être par le biais de transferts d'argent, de conditions. Et
ah oui, ça c'est vraiment la nouvelle stratégie à la mode, hein, parce qu'on était pendant longtemps asséché par un gouvernement conservateur au niveau canadien. Et là, on se rend compte que le pouvoir d'Ottawa, c'est de pouvoir financer et d'imposer quelques conditions. Le ministre Barrette se découvre un plaisir pour frapper sur le gouvernement fédéral ces derniers temps. Ça n'a pas d'allure, on dirait qu'il le fait aux deux semaines. Comment vous réagissez par rapport à ça? Est-ce qu'on doit imposer aux provinces de préserver, par exemple, la gratuité des services en échange de l'argent?
Bon, écoutez, je sais pas si c'est à la COFAN de se prononcer là-dessus.
Allez-y,
allez-y. En fait, ce que je dis, c'est que nous, on essaye de par tous les moyens de gérer ça à l'interne, si on peut dire, là, au niveau de la province. Et on encourage ça, les solutions de proximité. C'est selon moi, selon la COFAN, c'est toujours ce qui fonctionne bien. Mais après ça, on prend les moyens qu'on peut pour arriver à nos fins, si on peut dire. Là. L'important, c'est que les droits des personnes soient respectés, que les services soient disponibles. Et si c'est pas le cas en ce moment et qu'on a une possibilité de le faire arriver autrement que parce qu'on encourage habituellement, bien pourquoi pas essayer.
OK. Et en terminant, identifiez-moi là, les grands secteurs importants où on doit travailler à travers le Canada. Les thèmes, les facettes de notre vie, où il faut vraiment faire quelque chose.
Bien, à travers le Canada et dans les provinces en général, j'imagine.
Ouais, c'est ça. Puis ce qui est sorti dans votre rapport là, de la société civile ou des rapports de la société civile?
Bien, en fait, je pense que, un, de consulter le milieu, ça, c'est quelque chose qui ressort beaucoup parce que c'est eux qui connaissent, qui sont encore en contact, tu sais, plus proche avec les gens, puis qui connaissent les besoins, les priorités.
Mm-hmm.
L'autonomie des personnes aussi, favoriser l'autonomie des personnes, tant au niveau des mesures de prise de décision assistée plutôt que des mesures de prise de décision supplétive, là, si on peut dire.
Donc, c'est-à-dire, juste pour que les gens comprennent, supposons qu'une personne a une déficience intellectuelle,
on veut l'accompagner, on ne veut pas faire
l'accompagner.
Des choix pour elle.
C'est ça, c'est important.
C'est beaucoup ressorti, oui.
D'ailleurs, vitement, la réserve par rapport à la convention relative aux droits des personnes handicapées concerne entre autres les personnes qui ont déficience intellectuelle.
Les mesures de prise de décision substituées, c'est le mot que je cherchais.
Mais même au moment du vote, c'est ça?
Oui, bien en fait, au moment de la signature, quand quelqu'un, de la ratification, quand un État ratifie une convention, il peut toujours émettre des réserves. C'est vraiment un engagement politique, donc il peut dire « je reconnais la convention sauf cet article-là » ou « je me donne le droit de déroger un peu de cet article-là ».
Puis le Canada a décidé de poser une réserve pour ce qui, j'oserais dire, de l'affirmation complète de la volonté des personnes qui ont une déficience intellectuelle.
Oui, exactement, c'est ça. C'est qu'il se réserve le droit de... Il dit « je vais favoriser les mesures, les prises de décision assistées », donc l'accompagnement, ce que nous on veut. Mais je me garde le doigt sous certaines conditions quand on pense que c'est vraiment mieux pour la personne de permettre les prises de décision substituées.
OK. Comment on suit avec la COFAN là, l'évolution de ces rapports-là, de l'application de cette convention-là? Ce que je veux dire, c'est qu'on se présente sur votre site web, on vous appelle, on appelle Audrey-Anne. Comment on fait pour suivre la suite des choses?
Ça me fait plaisir, mais nous, c'est sûr qu'on diffuse dans notre réseau, là, aussitôt qu'on a des nouvelles par le biais de notre infolettre et éventuellement de notre site web aussi. Là.
Donc, il est le cofan.org, COPHAN.org, c'est bien ça?
Oui, exactement.
Donc, rendez-vous sur votre site web aussi. On peut vous rejoindre. Est-ce que vous avez un numéro de téléphone pour nous? Parfois, c'est plus simple pour les gens
qui
nous écoutent. Oui, à la campagne,
le numéro de téléphone, c'est le 514-284-0155.
Bon, il faut dire aussi que la COFAN a plein de membres qui, en principe, eux, ont l'habitude d'être téléphonés. Mais je vous remercie beaucoup, Audrey-Anne, pour ce tour d'horizon de ce très important rapport qui a été déposé.
Mais ça me fait plaisir. Merci de votre invitation.
Pour entendre en direct des entrevues comme celle qu'Audrey-Anne Trudel a donnée à Benoît Racette, ne manquez pas Accès libre, le mardi à midi et en reprise à 17h sur Canal M. Voilà ce qui met un terme à l'émission Le National cette semaine. Merci à toute l'équipe de Canal M, animateurs et techniciens, de nous permettre de vous présenter ce condensé d'actualité nationale le vendredi à midi. Et merci à Anne-Laure Janson, notre recherchiste à tous. Ici Clotilde Sey, qui, au nom de Canal M, vous souhaite une très agréable fin de semaine.